Paso doble.
Paso doble.
Jeudi, polar.
Bonjour Tito Topin.
Bonjour.
Ravi de vous avoir ce matin avec nous. Pour moi, vous êtes le maître de l'optimisme noir. Personne ne vous l'a dit avant moi ?
Maître, je ne sais pas, mais optimisme désespéré, oui, c'est exactement ce que je suis.
Alors, par exemple, dans votre dernier roman, vous imaginez aisément que dans un futur proche, les trois grands monothéismes cesseront de se faire la guerre, mais pas pour le meilleur du monde. Je vous lis. Sous l'impulsion des réformés aux États-Unis, des catholiques au Vatican, des juifs en Israël, des sunnites en Arabie Saoudite et des chiites en Iran, les États, lassés des guerres interconfessionnelles, ont décrété d'une seule voix que l'ennemi n'était pas celui qui pratiquait une autre religion que la leur, mais celui qui n'en avait aucune. Ainsi, la foi devenue obligatoire, les livres saints devenus constitution, les païens, les hérétiques, les athées, les rationalistes, les libres penseurs, aussi bien que les polythéistes, tous réunis sous la dénomination de mécréants ou de voltairiens, sont pourchassés et condamnés à des peines d'intérêts religieux plus ou moins sévères selon leur degré d'impureté ou enfermés dans des camps d'inoculation de la foi afin d'y retrouver l'esprit divin d'une des religions monothéistes ou des sectes s'y référant. Et les réfractaires, comme votre héros, comme Boris Prévert, eh ben il en reste qu'une seule voie, hein, c'est de fuir, c'est l'exil. D'ailleurs, le titre de votre dernier polar, c'est « L'exil des mécréants » et c'est édité par la Manufacture de Livres. Alors, c'est le fait religieux qui vous a préoccupé ces derniers mois, ces dernières années, Tito Topin ?
Préoccupé, non, mais en tout cas, je vois bien que les religions qu'on croyait éteintes dans les années 70, qui est ma génération en quelque sorte, on les croyait éteintes et puis elles ont été à un moment remplacées par les sectes. On a vu arriver toutes sortes de sectes plus ou moins dangereuses, quelquefois même plus dangereuses que les religions, et ce qui est désespéré effectivement de l'espèce humaine. Et puis maintenant, on voit les religions arriver, effectivement, reprendre le dessus en masse, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Et je pense que un jour ou l'autre, il faudra que les mécréants se méfient des États de plus en plus théocratiques.
Et de l'union sacrée des intégristes, est-ce que vous voulez dire ?
Bien sûr, ils sont partout, les intégristes, mais ils sont dans nos démocraties. Je pense, par exemple, les États-Unis, ben, il y a des formes d'intégrisme assez puissantes, je veux dire, dans le pays.
Alors, vous avez imaginé donc ce futur proche, parce qu'on peut parler de polar d'anticipation. Et s'il fallait parler de votre héros, Boris Prévert, parce qu'on va voir que le roman, ça va être la cavale de ce journaliste, d'Avignon jusqu'à Lisbonne. Pourquoi Lisbonne est-elle zone libre, alors qu'on aurait pu imaginer le contraire?
Parce que j'ai remarqué que c'était dans les pays les plus antérieurement catholiques, je dirais, qu'on trouve le plus de tolérance. On a vu ça, par exemple, notamment avec l'Espagne, après le franquisme. On a vu arriver la Movida, par exemple, et ce pays qui était sous un couvercle assez puissant, assez fermé, s'est ouvert, mais de façon extraordinaire, je veux dire, à toutes sortes de mœurs. Je veux dire, contrairement aux pays du Nord, qui sont restés un petit peu plus straight, un petit peu plus raide, hein, je dirais, voilà. Donc, Lisbonne, effectivement, est encore un espoir au moment de mon livre.
Alors, c'est une cavale, je l'ai dit, mais parlons de Boris Prévert. Qui est ce journaliste, Tito Topin ?
Ben, Boris Prévert, c'est comme Boris Vian et comme Jacques Prévert, donc déjà, ça le définit assez.
Donc, ça a été voulu.
C'est déjà journaliste plus mécréant, bien sûr. Mais c'est parce qu'il va dénoncer quelques fadaises que justement, de certains cardinaux ou évêques.
Et là aussi, ça renvoie à l'actualité, ces fadaises ?
Eh bien, de toutes les façons, vous savez, un auteur... Et parce que j'ai l'impression de parler de ce livre comme si je savais exactement pourquoi je l'ai fait. Non, je suis un intuitif, et donc je pense que la plupart des auteurs le sont, d'ailleurs, et que petit à petit, l'actualité les imprègne et qu'il en sort quelque chose.
Qui accompagne Boris Prévert dans sa cavale ?
Il va faire une rencontre dans le train, d'ailleurs, hein, une fille mère, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire elle est enceinte, elle ne sait pas de quel père, etc. Il va la prendre.
Anissa, avec lui, pour la nommer.
Il va la prendre avec lui pour de bonnes et de mauvaises raisons, parce que la mauvaise raison étant que puisqu'il est en cavale et qu'il est poursuivi en tant qu'homme célibataire, du moment qu'il a fait passer pour sa femme, c'est plus facile peut-être pour lui de passer inaperçu. Il va rencontrer une ancienne copine à lui, qui a énormément compté dans sa jeunesse, dans son adolescence, dans ses études, etc. Soledad, une Espagnole, qu'il va retrouver donc à Barcelone. Et puis, à Madrid, pardon, je crois même. Mmh. Hein. Et puis, chemin faisant, il va rencontrer une sorte de braqueur de banque, mais braqueur de banque assez particulier, en cela que les banques qu'ils braquent sont généralement consentantes, ce qui est assez bizarre, mais en tout cas, c'est comme ça que ça se passe.
Et pourquoi avoir choisi ces personnages, Tito Taupin ?
Ben, j'aime bien des personnages disparates, les plonger comme ça dans une situation qui les dépasse, secouer le shaker et voir où ça va.
Et il est poursuivi par qui ? Parce qu'il est poursuivi par plusieurs personnes, notre fugitif, on peut l'appeler comme ça, Boris Prévert.
Eh bien, il est poursuivi d'abord par l'évêque, qui est en charge aujourd'hui de ce qu'on appelle le ministère de l'Intérieur, par exemple. Et il est en charge, en même temps, ce même évêque a mis en place un système qui fait qu'une ancienne amie, disons, enfin, qui lui a servi de garde du corps à un moment, lorsqu'il était menacé, elle va servir un petit peu de chèvre pour lui envoyer un tueur assez, peut-être caricatural, mais enfin assez méchant.
Voilà, surtout méchant. Ça s'appelle L'exil des mécréants. Et c'est incroyable parce que ça reste quand même un polar du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire que même si on sent bien que vous vouliez parler un peu de la montée des intégrismes, du retour des religions.
Oui. Oui. J'ai l'impression que tous les polars que j'écris se servent un petit peu quand même d'une. Par exemple, les polars que j'ai écrits sur le Maroc se servent des années d'indépendance pour y greffer des polars. Donc, ce sont des romans qu'on peut considérer comme historiques d'une certaine façon, parce que les faits qui y sont relatés sont tout à fait justes. Mais par contre, je veux dire, je me sers du polar et des codes du polar pour écrire une histoire.
Alors comment ça commence l'écriture d'un livre, Tito Taupin ? Je rappelle que vous êtes très connu dans le milieu du polar pour ce que vous avez écrit, que vous avez été plusieurs fois récompensé, que ceux qui ne savent pas que vous êtes le créateur de la série Navarro, et ben voilà, c'est dit, je le dis. Mais au départ, par exemple, pour L'exil des mécréants, vous êtes parti d'une idée, d'un tracé, d'un ressenti.
C'est assez bizarre, effectivement. Vous venez de parler de Navarro. J'ai écrit beaucoup de scénarios. Quand on écrit un scénario, on sait exactement avant même de l'écrire. Enfin, on sait parce qu'on a eu des réunions, on a commencé par écrire des pitchs, par écrire des synopsis. On sait exactement et le début et la fin. Et donc, après quoi, l'écriture du scénario, c'est bon, on va à la ligne, je dirais, d'une certaine façon. Tandis que le roman, non, c'est pas du tout. Moi, ce que j'aime bien dans le roman, c'est partir dans une aventure avec les quelques personnages que j'ai en tête. Ça, les personnages sont importants. Je pense qu'il faut les caractériser, qu'il faut qu'ils aient une existence propre. C'est-à-dire, je leur attribue un physique, je leur attribue justement des caractères, etc.
Et des manières de parler. Il y a beaucoup de dialogues, comme très souvent avec vous, Tito Taupin.
Oui, et donc, une fois que j'ai ces personnages-là, encore une fois, je les mets, comme je vous le disais à l'instant, dans un shaker, et je ne sais pas de quel cocktail exactement il va en sortir.
Vous n'êtes pas du genre à avoir un plan avec une fin déjà plus ou moins définie.
Non. Ce qui fait que l'écriture d'un roman est très stressante justement, et c'est ça qui la rend passionnante. Autant écrire un scénario, comme je vous le disais, c'est encéphalogramme plat, hein, on sait exactement où on va. Autant roman, c'est des inquiétudes, c'est des nuits blanches, c'est ce qui rend la vie intéressante, la vie de romancier en tout cas.
Intéressant.
Parce que je partage tout avec mes personnages, vous savez. Je veux dire, quand ils font l'amour, je suis en érection. Je veux dire, quand ils mangent, je digère mal. Je veux dire, je vis avec eux.
Est-ce qu'il vous ressemble, Boris Prévert?
Je crois pas. Je fais en sorte quand même de mettre. Mais je pense que si Boris Prévert ne me ressemble pas, donc le personnage principal, en tout cas, il y a un petit peu de moi dans tous les personnages du roman. C'est évident. Même chez les femmes. J'ai un vrai côté féminin. Même si j'ai un mauvais fond, d'après les lectures que vous avez en main.
Est-ce que vous, quand vous parlez de ces personnages, est-ce que ce sont des personnages que vous essayez de décrire justement en brouillant les pistes?
Brouiller les pistes, c'est un peu, ça fait partie aussi des codes du polar. C'est-à-dire, on entraîne le lecteur dans vers des issues qui pense bonne, et puis va arriver un petit twist qui fait que c'est une impasse, et pour les projeter vers une autre sortie de secours, etc. Je veux dire, c'est propre aussi au code du polar. Alors oui, bien sûr, je veux dire, mes personnages vont et viennent, peuvent évoluer en cours du roman, bien sûr. C'est pas le cas de cela. Cela reste assez assez stable, si on peut dire, si on peut parler de stabilité en ce qui les concerne. Mais sinon, des personnages peuvent tout à fait évoluer effectivement au cours du roman.
Et les décors, pour vous, c'est important? C'est important qu'il y ait.
C'est très important, oui. Ouais. Oui. Il y a la ville. Il y a ça existe. Enfin, j'ai essayé, là, vous parliez de Lisbonne, j'ai essayé de faire exister, en tout cas, les quais de Lisbonne, Belém, etc. Enfin, ces quartiers-là de la ville, oui.
Et ils partent ils s'enfuient d'Avignon, une ville que vous connaissez bien. Vous habitez toujours à Avignon?
Moi, j'habite à Avignon, oui, mais toujours, non, depuis 4 ans.
Pourquoi vous avez choisi cette ville?
Ben, je vis en Provence depuis très longtemps, hein. Je vis en Provence depuis les années 76. J'ai quitté Paris, donc ça fait un bon moment. Et tout ce que j'ai écrit, je l'ai écrit là-bas en Provence, y compris Navarro. C'est-à-dire, alors même que je travaillais pour la télé, qui est véritablement, je veux dire, installée à Paris, je travaillais en province assez facilement.
Qu'est-ce qui vous a fait quitter Paris? Est-ce que c'est la fin d'une époque? On sait que vous avez travaillé, vous avez été très proche de Jean-Yann, vous avez travaillé pour la télévision, vous êtes occupé de plein de choses avant d'arriver à l'écriture, et plus particulièrement au polar, Tito Topin.
D'abord, je ne suis pas parisien, donc il n'y avait aucune raison non plus que j'y ai mes attaches. Hein. Je veux dire, je suis resté à Paris une douzaine d'années, et je suis arrivé à Paris relativement tard, puisque moi je suis arrivé à Paris, j'avais déjà 33 ou 34 ans. Et donc, effectivement, quand je suis arrivé à Paris, j'étais graphiste. Donc, j'ai eu la chance de travailler assez rapidement. Je travaillais beaucoup en publicité. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Jean-Yann, lorsque les éditions Casterman nous ont demandé, l'un et l'autre, alors que nous connaissions pas, à l'un et l'autre, de travailler ensemble pour une bande dessinée. Et puis, bon, on s'est accoquiné, et on a fait quelques bêtises ensemble, ces films, moi mes affiches, plus modestement, et voilà.
L'écriture est venue bien après.
Pardon?
L'écriture est venue.
Alors l'écriture est venue après, c'est-à-dire que lorsque je travaille avec Jean-Yann, je suis souvent sur les plateaux de cinéma. Avec lui, je participe activement, non, passivement. Mais en tout cas, je suis le spectateur, je sais ce que c'est qu'un tournage, je sais ce que c'est qu'une salle de montage, je veux dire, et même je sais ce que c'est qu'un scénario. Mais par contre, je n'écris pas, parce que à l'époque, je ne pensais pas écrire du tout. C'est très inhibant, l'écriture, pour quelqu'un qui n'a pas fait d'études. Moi, je suis totalement autodidacte. Donc, il n'y avait aucune raison que je me lance dans l'écriture, alors même que je gagne gagnais bien ma vie dans le graphisme. Et donc, je restais à ma place pendant tout ce temps-là. Et c'est bien après, que lorsque l'âge arrivant vers la cinquantaine, je veux dire... vous savez, une fois qu'on a été à la mode dans un graphisme et en publicité, on est très vite démodé. Et donc, à 50 ans, j'étais complètement has-been et laissé sur le côté. Et donc, j'ai pris une machine à écrire, j'ai écrit un roman. Je l'ai envoyé à quelques éditeurs, et puis c'est Gallimard qui a dégainé le premier en série noire. Et donc, j'ai eu mon premier livre comme ça. Et c'est par la suite, et très vite d'ailleurs, quand je me suis mis à écrire des scénarios, que j'ai retrouvé Jean-Yann, alors là, comme acteur, et où là, j'ai écrit des scénarios où il en était le personnage principal.
Et pourquoi le polar, Tito Taupin ?
Eh bien, il était très difficile pour moi d'être Chateaubriand tout de suite, d'être donc le polar pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'écrire, lui paraît à tort, mais en tout cas lui paraît plus abordable, plus facile. Et donc je me suis lancé là-dedans un petit peu, je veux dire, inconsciemment.
Écoutez cet extrait, c'est un film que vous devez connaître, c'est un classique du cinéma hollywoodien, mais je suis sûr qu'à vous, Tito Taupin, il doit signifier pas mal d'autres choses.
Monsieur Laszlo, is it not?
Yes.
I'm Captain Renault, Prefect of Police.
Yes, what is it you want?
Merely to welcome you to Casablanca and to wish you a pleasant stay. It isn't often we have so distinguished a visitor.
Thank you. I hope you'll forgive me, Captain. The present French administration hasn't always been so cordial.
May I present Miss Ilzanant? I was informed you were the most beautiful woman ever to visit Casablanca. That was a gross understatement.
You're very kind.
Won't you join us?
If you will permit me. Oh, no, Emil, please, a bottle of your best champagne and put it on my bill.
Very well, sir.
Captain, please.
Oh, please, monsieur, it is a little game we play. They put it on the bill, I tear up the bill. It is very convenient.
Alors, Tito Taupin ?
Oui, vous auriez dû me mettre les sous-titres parce que moi je parle pas anglais, mais mais en tout cas j'ai reconnu bien évidemment Casablanca.
Bon, vous savez pourquoi Casablanca ? Parce que vous êtes né à Casablanca. Votre père était policier, commissaire, c'est ça ?
Oui.
Et c'était donc dans le Maroc du film de Michael Curtis, dans le Maroc sous protectorat français.
Mmh. Oui.
Est-ce que le fait d'avoir vécu cette période dans cette ville, d'avoir eu comme père un commissaire de police, ça vous a plus ou moins prédisposé à devenir le grand auteur de polar que vous êtes aujourd'hui, Tito Taupin ?
Alors, pas le père, parce que j'ai pas vécu avec lui, donc aucune incidence, hein, je veux dire, quel que soit le métier qu'il ait fait. En tout cas, Casablanca, certainement, parce que... Lorsque je me suis mis à écrire et donc mes premiers polars, il est très vite arrivé le moment où je me demandais ce que j'allais écrire par la suite. Et c'est parce que j'aimais beaucoup Raymond Chandler, j'aimais beaucoup son personnage de Philip Marlowe à Los Angeles, en Californie, etc. Et tout d'un coup, j'ai compris que le Casablanca des années 50, donc des années d'indépendance, dans les années 55, tout ça, ressemblait, mais furieusement, à Los Angeles, à savoir que nous avions des gratte-ciels et qui faisaient de l'ombre à la Floride quand le soleil était dans le bon sens. Nous avions des voitures décapotables bicolores, nous avions des piscines haricots, nous avions des filles de rêve juchées sur des tabourets de night. Et puis nous avions la corruption, nous avions les attentats, nous avions les crimes, nous avions tout ce qui était noir au soleil d'une certaine façon. Et donc là, j'y ai trouvé une pâture que j'utilise encore quelquefois.
Encore, par exemple, pour le dernier, L'exil des mécréants, à la manufacture de livres. Qu'est-ce qui reste de cette époque dans ce livre ?
Ben, vous avez vu que je vais quand même avec mes personnages vers le sud, quand même, de toutes les façons. Je veux dire, je n'ai écrit aucun roman qui se passe aux États-Unis ou qui se passe en Angleterre ou qui se passe dans le Frima, etc. Simenon fait ça très bien, donc moi je reste au soleil.
Et ce soleil, il vous manque ou ?
Ben, le soleil, je le trouve en Provence.
Avec les souvenirs.
Ah, bien sûr, des souvenirs, des amis, bien entendu, bien sûr, sans nostalgie, mais en tout cas avec beaucoup de reconnaissance pour la jeunesse qui a été la mienne.
L'exil des mécréants de Tito Taupin, mon invité ce matin est édité par la Manufacture de Livres. Merci d'être passé ce matin.
Oh ben c'est moi qui vous remercie de m'avoir accueilli, mon livre et moi.